Radio Okapi. Le journal, présenté par Gisèle Cage.
Bonjour et bienvenue dans votre journal. Restez avec nous pour découvrir les nouvelles les plus importantes de ce jour. Percée majeure à Doha, le gouvernement congolais et le rebelle de l'AFC M23 annoncent un cessez-le-feu. Hier, malgré des rumeurs de retrait de rebelles, une déclaration conjointe signée par Lawrence Kanyuka, porte-parole de la rébellion, confirme la fin des hostilités. Territoire de Lubero au Nord Kivu, augmentation alarmante des cas de malnutrition chez les enfants et les femmes de Diapanda dans la zone de santé des Biena. 10 nouveaux cas signalés chaque mois contre 4 il y a quelques mois. Cette hausse est attribuée au déplacement des populations dû aux affrontements entre les FARDC, le rebelle du M23 et les ADF. La société civile lance un appel urgent à l'intervention des humanitaires. Libérer la CENI des pressions politiques et renforcer les lois contre la corruption. Lors d'un forum sur la corruption électorale tenu mardi à Kinshasa, l'Institut congolais de recherche sur la politique a proposé des mesures audacieuses. Invité de Radio Okapi, Albert Maloukissa, directeur de recherche du pilier gouvernance à l'Institut Ebouteli, partage les motivations derrière ces recommandations. Découvrez ses perspectives dans ce journal. Nous ouvrons ce journal par les négociations en cours à Doha. Avancée significative dans les négociations à Doha entre le gouvernement congolais et le rebelle de l'AFC M23, alors qu'hier, plusieurs sources ont parlé du retrait de la délégation des rebelles des discussions dans une déclaration conjointe signée par Lawrence Kanyuka, porte-parole de la rébellion à partir de Goma. Les deux parties annoncent leur volonté de mettre fin aux hostilités et d'instaurer un cessez-le-feu effectif, un engagement pris sous la médiation du Qatar dans un esprit de compréhension mutuelle. Les détails avec Martial Papi Moukeba.
À l'issue des discussions qualifiées de franches et constructives, les deux parties se sont engagées à œuvrer en faveur d'une trêve devant conduire à l'instauration d'un cessez-le-feu effectif, précisent les documents. D'un commun accord, elles affirment leur attachement à une cessation immédiate des hostilités, rejettent catégoriquement tout discours de haine et d'intimidation et appellent les communautés locales à respecter ces engagements. Elles conviennent également que le respect de ces engagements constitue une étape clé vers un dialogue constructif en vue d'un retour durable à la paix en RDC et dans la région. La déclaration précise que ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que sur les modalités concrètes des sorties des conflits dans les territoires de l'Est du pays. En fait, les deux parties s'engagent à respecter immédiatement ces engagements tout au long des pourparlers jusqu'à leur conclusion. Elles appellent les peuples congolais, les chefs religieux et les médias à soutenir et à relayer ces messages d'espoir et de paix. Béni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
Le vice-ministre belge et ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a salué l'accord annoncé entre la RDC et le M23 visant à instaurer une trêve et un cessez-le-feu ouvrant la voie à un dialogue pour rétablir la paix durable dans l'est du pays. C'est une étape cruciale pour mettre fin aux violences, a-t-il écrit sur son compte X. Il a également annoncé qu'il se rendra dans la région dès ce vendredi pour exprimer son plein soutien à ses efforts facilités par le Qatar ainsi qu'à ceux des organisations régionales, l'EAC et la SADC. En lien avec les discussions en cours à Doha entre les délégués du gouvernement congolais et ceux de la rébellion de l'AFC M23, les pourparlers avancent vers la paix. Le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a confirmé cette avancée hier soir mercredi lors de l'émission Dialogue entre Congolais sur Radio Okapi. Écoutons Patrick Muyaya dans cet extrait sélectionné par Guy Maté.
Et il ne m'appartient pas de parler de ce qui se passe à Doha dès lors qu'il est... C'est un processus qui est organisé autour d'une médiation et je pense que la médiation qatari pourra, les moments venus et ça ne saurait plus tarder, communiquer pour vous permettre d'être édifié. Et après la communication, on pourra peut-être venir pour d'autres interviews où nous pourrons vous donner davantage d'éléments. Parce que lorsque les discussions ont été convenues, lorsque le président de la République autour de l'émir du Qatar a rencontré le président Kagame, il y a des choses qui ont été convenues. Et dans cet ordre, les choses se font. Je vous ai dit tout à l'heure que les discussions n'étaient pas infructueuses telles que vous les dites. La question pour nous, n'est pas de dire qui y est ou pas. La question pour nous, c'est de savoir si nous avançons dans le sens de la paix ou pas. Et je pense que dans ces sens, nous avançons dans les cas d'un processus sensible.
En rapport avec l'agression rwandaise, les femmes du secteur minier manifestent leur soutien au combat du chef de l'État à la défense de l'intégrité territoriale. Elles ont levé cette option au cours d'une manifestation organisée par le vice-ministre des Mines, Godard Moter-Monin, dans l'enceinte de l'espace Maranatha, dans la commune de la Gombe, ici à Kinshasa. Cette manifestation s'inscrivait dans le cadre de la clôture du mois des la femme. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Ces femmes, venues de l'administration centrale et de la division urbaine des mines de Kinshasa, ont profité de cette occasion pour exprimer leur désapprobation à la guerre imposée à la RDC par les Rwandais et ses supplétifs du M23 et AFC. Cet événement, organisé par le secrétariat général aux mines, a vu le vice-ministre Godard Moter-Monin mener la mobilisation en faveur du chef de l'État, Félix Tshisekedi. À cette occasion, il a souligné l'impérieuse nécessité pour les dignes filles et fils congolais de s'engager pour la défense de la patrie. Godard Moter-Monin a également exhorté toutes les femmes du secteur minier à dénoncer les traîtres et à encourager leurs proches à servir les pays sous les drapeaux. Il a par ailleurs rappelé les rôles déterminants que jouent les femmes de l'administration minière dans le développement du secteur minier congolais. Cette occasion a en outre permis au secrétaire général aux mines, Jacques Ramazani, d'apporter des réponses aux préoccupations d'ordre socio-professionnel soulevées par les femmes de son entité. À la fin de cette manifestation, une minute de silence a été observé en mémoire de toutes les victimes de la guerre d'agression qui sévit dans l'est du pays.
À Beni, chef-lieu de la province du Nord Kivu, 26 représentants de la société civile provenance de Beni Butembo ainsi que des territoires de Beni et Lubero participent depuis hier mercredi à un atelier de formation. Pendant 2 jours, ils seront formés aux techniques de lutte contre la désinformation, la mésinformation et les discours de haine. Cet atelier organisé par la section des affaires civile de la MONUSCO a pour objectif de doter les participants des outils nécessaires pour sensibiliser les leaders locaux au danger de ces fléaux qui compromettent les efforts des autorités et de leurs partenaires à tous les niveaux. Pépin Kavota, président de la coordination des forces vives de la société civile de Beni, exhorte les participants à tirer pleinement parti de cette formation en raison de leur rôle crucial dans la gouvernance locale. Il s'exprime ici au micro de Guylaine Kassassia.
La désinformation, les rumeurs, la mésinformation et les discours de haine sont sources de la délabration du tissu social. Et si on vous a choisi pour venir participer, c'est pour que vous soyez non seulement des formateurs, des autres formateurs, mais aussi les notions que nous allons écouter ici, il vous faudra les matérialiser dans votre vie quotidienne. La société civile est un pilier très important dans la gouvernance, dans la gestion des conflits. Vous êtes donc appelés à bien faire preuve de vos compétences parce que votre choix par les différentes coordinations et même les organisateurs n'a pas été un hasard. Il est donc important que tout et chacun de nous puisse quitter dans cette salle avec un bagage aguerri pour faire face à toute cette population, tout peut-être politique, qui risque de véhiculer la désinformation, les rumeurs, la mésinformation, mais aussi les discours de haine. Il est plus important que lorsque nous finirons cet atelier, que des plans d'action dans nos entités respectives soient élaborés afin de matérialiser les acquis de cet atelier.
À l'issue de cette formation, les participants vont élaborer un mécanisme de suivi pour atténuer les effets négatifs de ces fléaux dans le but de promouvoir la cohésion sociale et la paix dans le Grand Nord Kivu. Parlons santé. La société civile du territoire de Lubero Nord Kivu tire la sonnette d'alarme face à la montée inquiétante des cas de malnutrition chez les enfants et les femmes à Diampanda, une localité de la zone de santé des Biana. Selon cette structure citoyenne, 10 nouveaux cas sont signalés chaque mois contre 4 il y a quelques mois. Cette augmentation alarmante est due au déplacement des populations causées par les affrontements entre les FARDC et le rebelle du M23 et les ADF. Merveille Mwindo Kavu, nutritionniste de la zone de santé d'Analuité, appelle à une intervention urgente des humanitaires. Écoutons son appel poignant dans cet extrait sélectionné par André Kitenge.
Auparavant, on trouvait à peine 4 par mois, mais ces derniers temps, nous sommes même vers 10 cas par mois. Il y a des problèmes liés à la nutrition, des problèmes liés au mouvement de déplacement de la population qui vivait dans des aires de santé voisines, mais qui n'ont plus accès à leur champ. D'abord, que les parents puissent chaque fois amener les enfants à la CPS, afin que nous puissions dépister ces cas cachés dans la communauté qui souffre la malnutrition. Il y a ces personnes visiteurs dans l'aire de santé qui ne savent où trouver à manger, alors préciser comment nourrir les enfants, c'est toutefois difficile. Nous appelons aux humanitaires de venir aux rescousses de ces personnes démunies des moyens afin de pallier à ce fléau de la malnutrition qui bat record dans l'aire de santé. Nous recommandons aux écoles qui organisent l'option nutrition de nous aider à chaque fois à déployer les élèves pour la recherche active. Comme ça, ces cas seront chaque fois orientés vers la structure compétente et puis nous ferons sélection des cas qui seront valides et qui ne seront pas valides.
Dans la province de la Tchopo, le programme national de lutte contre le VIH-SIDA, PNLS, est confronté à une pénurie de tests de confirmation du virus. Ces intrants manquent depuis quelques semaines, déplore le médecin coordonnateur provincial du PNLS. Pendant ces temps, des centaines de personnes ayant subi le premier test attendent toujours la confirmation de leurs résultats. Le docteur Aloïs Olinda, coordonnateur provincial du PNLS, craint que cette situation ne favorise la propagation de la pandémie. Santé toujours, cette fois-ci en Ituri, au moins 13 cas positifs de Mpox ont été confirmés parmi plusieurs dizaines d'échantillons testés au laboratoire de l'Institut national de recherche biomédicale à Kinshasa. Selon des sources de la division provinciale de la santé, parmi les patients figurent des enfants ayant été en contact avec des personnes malades. Le responsable de la santé provinciale recommande à la population de renforcer des mesures d'hygiène, notamment en se lavant les mains régulièrement et en évitant les contacts physiques avec les malades. Le point avec Ezekiel Mouzali à depuis Bounia.
5 zones de santé en Ituri sont touchées par la maladie de Mpox sur les 36 que compte la province. Il s'agit des zones de santé de Chomia, Rwampara, Komanda, Lita ainsi que Aru. Selon des sources sanitaires, 4 échantillons déclarés positifs ont été prélevés l'année dernière, tandis que d'autres ont été notifiés en début de cette année. D'après la division provinciale de la santé, dans la zone de santé de Rwampara, parmi les cas confirmés, figure un enfant d'environ 14 ans. Ce dernier a été contaminé par un adulte venu du Nord Kivu. Le responsable médical en province recommande à la population de multiplier les mesures d'hygiène pour se mettre à l'abri de cette maladie. Parmi ces mesures figurent entre autres le lavage régulier des mains à l'aide du savon ou encore l'usage des cache-nez. Également, éviter tout contact physique avec les malades. Compte tenu du mouvement quotidien des populations, le chef du bureau de l'information sanitaire recommande l'activation des différents piliers pour une riposte dans toutes les zones de santé contre le monkeypox. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Dans le Kasaï central, le projet Transforme et le guichet unique GUS se sont engagés à collaborer pour simplifier l'accès aux documents nécessaires aux entrepreneurs souhaitant participer au concours de plans d'affaires COPA dans le cadre d'un protocole d'accord avec les deux parties. Les équipes de GUS sont présentes à Kinshasa pour aider les entrepreneurs à se formaliser. Selon le chargé des communications du projet Transforme, cette initiative vise des dizaines, des milliers de PME impliquées dans les processus de sélection en cours. Jean-Luc Moilou souligne que l'objectif est de soutenir ces entreprises dans l'objectif de documents essentiels tels que le registre du commerce et du crédit mobilier, le numéro d'impôt, l'identification nationale et autres. Il s'exprime au micro de François Kadima.
L'opération en cours est une opération qui a été orchestrée par le gouvernement de la République à travers deux de ses institutions. Le projet Transforme, qui est un projet, comme vous le savez, dédié à la promotion de l'entrepreneuriat et qui en ce moment est en train de sélectionner des nouvelles entreprises à accompagner grâce à des interventions techniques et financières. De l'autre côté, nous avons le guichet unique des créations d'entreprises. Les deux entités avait signé un protocole d'accord pour pouvoir mettre à la disposition des entreprises qui sont localisées dans des villes couvertes par le projet Transforme des kits et formalisation des proximités pour leur permettre d'acquérir des documents de commerce. Nous avons pu délivrer le premier document en seulement 2 heures, ce qui est absolument un record depuis que le guichet unique des créations d'entreprises existe, jamais chose pareille n'a été constatée, sauf peut-être des cas de démonstration.
Ce jeudi 24 avril, les passionnés de rumba commémorent le 9e anniversaire du décès de Papa Wemba, icône de la musique congolaise moderne, survenu le 24 avril 2016 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, lors de la 9e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo Fimua. À Kinshasa, plusieurs événements sont prévus dans divers lieux. Le centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale, situé en face du Palais de Peuple, organise une série d'activités du 27 avril, comprenant des expositions, des projections cinématographiques, des concerts et des témoignages pour honorer Papa Wemba en tant qu'artiste majeur. Parallèlement, le Musée national de la RDC sur le boulevard Triomphal présente une exposition intitulée 100% Star du 24 avril au 11 mai 2025. C'est jeudi matin, une cérémonie avec des discours et des témoignages est prévue, suivie en soirée des productions musicales et performances de sapeurs.
Actualité internationale.
Au moins 9 personnes ont été tuées et 63 autres blessées, dont des enfants, dans une attaque de missiles russes contre la capitale de l'Ukraine, ont annoncé les services des secours du pays dans la nuit du mercredi au jeudi 24 avril. Dans un bilan qui n'a cessé de s'alourdir, au cours de la nuit, les autorités ont fait état d'un bilan provisoire de 9 personnes tuées, 63 blessées, dont 42 hospitalisées, parmi lesquelles 6 enfants, en accusant la Russie d'avoir lancé une frappe massive sur Kiev.
L'invité.
L'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, Ebouteli, a organisé mardi dernier à Kinshasa un forum sur la corruption électorale. Invité de Radio Kapi, le directeur de recherche du pilier gouvernance à l'Institut Ebouteli explique que ce forum visait à améliorer l'organisation des prochaines élections générales en RDC. À cet effet, il propose notamment la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante pour libérer des pressions politiques, ainsi que le renforcement des dispositif juridique afin de lutter contre les actes de corruption. Albert Maloukissa s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour, professeur Albert Maloukissa Jolino.
Bonjour, Blaise Ndongala.
L'Institut des recherches Ebouteli a organisé un forum sur la corruption électorale. Quel est le sens que vous donnez à cette thématique, corruption électorale?
Depuis plus d'une année, Ebouteli a mené des recherches sur la corruption électorale qui nous a permis justement d'élaborer un rapport qu'on a baptisé « Corruption électorale sans frontières en RDC ». Nous disons sans frontières parce que tous les acteurs clés du processus électoral semble considérer les élections comme un business. Donc on peut parler d'élections business en RDC. Au-delà des enjeux politiques, les acteurs cherchent à en tirer profit sur le plan financier. Il y a qui perçoivent beaucoup d'argent dans ce qu'il y a comme transactions électorales. Et c'est ce que nous avons vécu même avec les dispositifs électoraux de vote s'étaient retrouvés entre les mains des candidats. Mais aussi pour passer député national provincial, au gouverneur, sénateur, il y a des candidats qui déboursent beaucoup d'argent. On a évalué selon les enjeux, ça peut nager entre 40 000, 250 ou 350 000 dollars, voire 400 000 dollars. Il y a des candidats qui ont voyagé avec des millions de Kinshasa vers l'intérieur du pays pour corrompre les électeurs, surtout les députés provinciaux.
Quand vous parlez de corruption, vous avez des preuves de ces actes, vous et Ebouteli?
La corruption, c'est un phénomène occulte. Mais nous avons eu la possibilité d'avoir accès à certains éléments. Par exemple, vous savez, il y a des candidats, quand ils remettaient de l'argent aux députés provinciaux, par exemple, ou à certains acteurs, mais ils les filmaient. Il y a même des dossiers qui ont été gérés au niveau de certaines assemblées provinciales.
Quelles sont les organisations ayant pris part à ces assises?
Cette recherche a été menée dans le cadre du consortium Le Congo n'est pas à vendre. Un consortium qui lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Donc, mais on avait aussi invité la CENI. La CENI était venue, on a pu débattre de nos conclusions. Nous allons avoir une audience plus approfondie avec certains responsables de la CENI pour qu'ils puissent prendre connaissance et évidemment nous apporter des éclaircissements à propos des points liés à la corruption électorale au niveau de la CENI. Mais il y a eu aussi pas mal d'organisations de la société civile non membres du CENPAV qui étaient présentes. Les discussions, les échanges qu'on a eus ont pu vraiment démontrer que pour le prochain processus électoral, on doit renforcer les dispositifs juridiques, voire de gouvernance, pour la lutte contre la corruption électorale.
Quelles sont les grandes recommandations issues de ces forums?
Au niveau de la gouvernance de la CENI, nous pensons qu'il faut renforcer davantage l'autonomie de la plénière en retirant les membres du bureau de sa composition. Les membres du bureau ne peuvent pas être jugés partis. Le président de la CENI ne peut pas présider la plénière. Aussi, qu'il faut renforcer les audits. La CENI est généralement soumise à l'audit de la Cour des comptes, mais nous pensons que c'est important qu'un cabinet d'audit indépendant puisse également suivre de près les comptes de la CENI, qui n'est pas aussi exemplaire en matière de transparence. Nous pensons aussi que la justice électorale devrait bien fonctionner. D'abord, au niveau des juges de la Cour constitutionnelle, il faudra qu'il y ait vraiment des critères clairs, transparents pour leur nomination et essayer de rendre également cette Cour plus indépendante, au lieu que ça soit à la solde des acteurs politiques pour les écoles. Lorsqu'il s'agit de désigner des bureaux de vote, en tout cas, les écoles où les promoteurs sont des candidats, la CENI devrait se réserver de pouvoir les intégrer dans les effectifs des bureaux de vote, parce que les promoteurs en abusent généralement, exerçant une pression sur les enseignantes, à leur solde, soit affectés dans des bureaux, dans des circonscriptions qui les arrangent.
Quel est l'appel que vous faites à la communauté internationale?
Si on se considère comme gendarme de la démocratie, et malheureusement, on n'a pas une certaine impartialité, on fait les doubles standards en ce moment-là, ça ne peut pas aider à la redevabilité politique. Voilà, les dirigeants qui sont élus grâce à la corruption ne se considèrent pas comme étant redevables vis-à-vis des citoyens. C'est ça l'impasse de la gouvernance au Congo.
Monsieur Albert Maloukissa Jolino, nous vous disons merci.
Merci beaucoup.
C'est ainsi que se clôture notre grande édition matinale aujourd'hui. Billy Landry Betou était à la mise en onde, Alain Ironga à la coordination, et l'équipe Elamundo à la supervision, et Gisèle Cage à la présentation. Nous vous remercions de votre fidélité. Espérons vous retrouver pour une nouvelle édition de Flash Info. Nous vous souhaitons une agréable journée et nous disons à très bientôt.